Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va regarder de plus près comment l'histoire personnelle, mais aussi l'histoire collective, se fabrique et se partage sur Internet, notamment via des initiatives qui viennent des communautés elles-mêmes.
Oui, tout à fait. On va se pencher sur trois sites web francophones. Ils sont consacrés à la mémoire et à l'histoire de ce qu'on appelait l'Afrique française du Nord, l'AFN, quoi, pour la période 1830-1962. Alors, ces sites, c'est .couscous, paellas et destin, documentation AFN, et enfin, encyclopédie de l'AFN 1830-1962. C'est une période, une histoire qui touche particulièrement, on le sait, les pieds noirs, donc les Européens qui vivaient là-bas avant l'indépendance.
D'accord. Et l'idée, c'est de comprendre un peu comment ces plateformes en ligne, comment elles collectent, organisent et puis partagent les souvenirs, les documents, les récits historiques. C'est vraiment une exploration de ce que ces sites nous montrent pour saisir la perspective particulière qu'ils offrent sur cette histoire qui est complexe, on peut le dire. Alors, commençons peut-être par le plus intime, couscous, paellas et destin. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est l'émotion, non ? C'est très fort.
Ah oui, absolument. Ces sites, c'est vraiment un recueil de témoignages, de fragments de vie. C'est classé avec des titres assez parlants comme « Destin » ou « Récit d'Exode ». La parole est vraiment donnée à l'expérience vécue. Et souvent, c'est très précis, chargé d'émotions.
Très visuel. Les camions qui attendent sur le port, les you-you, ces cris, un qui pouvait être festif, mais là, c'était sans doute autre chose. Une jeep qui passe. Et puis, il y a aussi des images de la vie d'avant. Au rang, dans les années 50, avoir une voiture, c'était un luxe. Ou juste le nom d'une rue, la rue El Mangar. Ça suffit à faire remonter des souvenirs.
C'est ça, là. Et ces récits, ils montrent aussi la douleur, l'incertitude. Par exemple, la mention très brève de la disparition d'André Bannon en mai 62. C'est lourd. Ou alors, des histoires de famille plus longues, comme ce billet joie et tristesse d'une famille de colons d'Algérie. Le mot « colon » est entre guillemets, d'ailleurs. Mais bon, il y a aussi des choses plus légères, presque cocasses, comme ce Guy Miralles qui tombe sur sa photo de classe de 1950 et qui partage ça. C'est touchant.
Et la forme est variée. C'est pas juste des textes. Il y a des billets de blog, mais aussi des galeries, comme les photos de classe ou une section sur la guerre 1954-1962. C'est une vraie mosaïque de souvenirs. Ces témoignages personnels, c'est très puissant, très immédiat. Mais comment on passe de ça, de cette accumulation d'émotions, à quelque chose de plus structuré, une vision d'ensemble, peut-être plus historique? C'est là qu'interviennent les autres sites.
Exactement. C'est là que Documentation AFN et l'encyclopédie prennent le relais, en quelque sorte. Documentation AFN, il se présente un peu comme un outil, un petit frère de l'encyclopédie. Le but, c'est de rassembler des documents bruts, des photos, des cartes postales, des références de livres.
Des sources primaires, en fait.
Oui, voilà. Des matériaux pour alimenter le projet encyclopédique, qui est plus ambitieux. D'ailleurs, on note qu'il y a une section dédiée aux harkis sur ce site de documentation.
Ce qui nous amène logiquement à l'encyclopédie de l'AFN 1830-1962. Là, on change d'échelle, j'imagine.
Ah oui, clairement. L'ambition affichée, c'est de bâtir une encyclopédie collaborative qui couvre toute la période, 1830-1962, plus d'un siècle.
Et pourquoi ce projet ? Quelles sont les motivations derrière ?
Elles sont assez claires sur le site. D'abord, il y a cette idée de corriger ce que les créateurs voient comme des fausses idées, des a priori. Ensuite, il y a l'urgence ressentie de préserver la mémoire des pieds noirs. Ils le disent comme ça, alors qu'il reste encore quelques pieds noirs encore en état de le faire. C'est une course contre la montre, un peu.
Je vois.
Et puis, il y a cette volonté affirmée de présenter leur version des faits pour la période concernée, le pendant, comme ils disent. En face ou à côté de ce qu'ils appellent l'histoire officielle. Et enfin, un but plus pratique, rassembler des infos qui sont éparpillées un peu partout.
Et c'est présenté comme un projet fini ou...
Non, pas du tout. C'est un chantier permanent. C'est évolutif, ouvert aux contributions. L'organisation est thématique. Histoire, géo, société.
Société, ça recouvre quoi, par exemple ?
Ça inclut la colonisation, les infrastructures, mais aussi les SAS, les sections administratives spécialisées. Tu sais, ces unités mixtes civilo-militaires qui ont eu un rôle très particulier pendant la guerre d'Algérie. Et puis aussi politique, religion, culture, c'est très large. Ils mettent même en avant des chantiers collectifs sur des points précis, comme les massacres d'Oran du 5 juillet 62 ou ceux de Sétif et Galma du 8 mai 45.
C'est intéressant de voir comment tout ça s'articule.
Oui, c'est fascinant. Ensemble, Ces plateformes créent une sorte d'écosystème numérique de la mémoire. D'un côté, la mémoire chaude, subjective, pleine d'émotions de couscous, et de l'autre, la tentative de construire une mémoire plus froide, si on veut, structurée avec des références, avec l'encyclopédie.
Oui, c'est une dynamique intéressante. Le numérique offre cette possibilité de faire coexister ces deux approches. Et c'est peut-être aussi un moyen de revendiquer une place dans le récit historique global en utilisant les outils d'aujourd'hui pour rassembler une communauté qui a été dispersée. Finalement, on a affaire à des sortes d'archives vivantes, en ligne. Elles mélangent le vécu intime et l'effort de synthèse historique et elles façonnent une mémoire collective spécifique.
Exactement. Et ça, ça pose une question, pour finir, une piste de réflexion, peut-être. Quel impact ces espaces numériques qui sont créés et alimentés par les communautés concernées elles-mêmes, quel impact ils ont sur la manière dont une histoire aussi complexe, souvent douloureuse, marquée par les conflits, les déplacements, comment cette histoire est racontée, comprise aujourd'hui, et surtout comment elle est transmise aux générations futures, celles qui n'ont pas vécu cette époque? C'est une vraie question.